L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention. L'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il sort de la maison et va vers la voiture, qui est une grande voiture noire, où devant se trouve un chauffeur habillé en chauffeur. Le chauffeur lui ouvre la portière arrière, il entre dans la voiture, puis le chauffeur entre à son tour pour mettre la voiture en route. Roule dans la nuit sur des routes désertes et en pleine campagne. Honorine de Gramont habite en Bourgogne à 100 km de chez son oncle. Xavier n'ose pas demander au chauffeur où il va, mais le trajet lui semble long. Enfin, ils arrivent. La demeure se trouve dans une petite rue calme, la propriété entourée d'un grand mur avec un portail en bois. Le chauffeur sort de voiture pour sonner à l'interphone. Le portail s'est ouvert. Il entre dans la voiture pour entrer dans la propriété. La voiture suit un chemin de terre tracé dans un parc qui semble abandonné. Il y a de grands arbres, vieux, beaucoup de broussailles et d'herbes folles. En tournant, Xavier voit apparaître la maison. Elle est grande, de 4 étages. Des 2 côtés, il y a une tour. Elle semble plus ou moins délabrée et un côté lugubre. D'ailleurs, tout ceci a un côté lugubre, le parc et la maison. Le chauffeur va arrêter sa voiture devant l'entrée de la maison. Il fait sortir Xavier intrigué et inquiet. Le chauffeur le mène à la porte de la maison, qui est une grande porte à double battant en bois usé. Pour accéder à la porte, il faut monter 3 marches usées. Le chauffeur le fait entrer Xavier dans la maison. Entrez, monsieur. Il entre, intimidé. Il y fait sombre, ça sent la poussière et l'humidité. Les murs, il y a accroché dessus des tableaux de personnes sinistres d'une autre époque. Le chauffeur lui fait monter des escaliers larges et usés où se trouve dessus un vieux tapis rouge et sur les murs il y a des tableaux. Au premier étage, il suit un couloir sombre. On n'y voit pas grand-chose. Ça a un côté sinistre. Le chauffeur frappe à une porte. Une voix dit « Entrez !» Le chauffeur ouvre la porte et fait entrer Xavier, intimidé. Dans la pièce, on n'y voit presque rien. Elle est sombre et il y a des ombres immenses qui semblent être des meubles. Dans un coin, une grande cheminée avec un feu qui brûle. Merci d'être venu. Il sursaute. Il a entendu une voix, cherche à voir d'où elle vient. La voix lui dit « Approchez !» Il s'approche. Intimidé, d'où il a entendu la voix. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, il voit une vieille femme assise dans un fauteuil. Elle semble grande, sèche, cheveux blancs bien peignés en chignon, l'œil dur, les lèvres pincées, distinguées. Elle porte une robe noire, par-dessus un collier en or. Elle lui dit « Merci d'être venu !» Et lui dit « Je ne savais pas que de Sainte-Croix avait une tante. » Elle lui dit en lui montrant un fauteuil en face d'elle « Asseyez-vous !» Il s'assoit. Elle lui dit « Nous sommes seuls. Les domestiques sont en congé. Nous allons prendre le thé. » Elle se lève. Et lui dit « Venez !» Il la suit. Elle le mène dans un coin du salon où derrière un paravent se trouve une table basse avec tout ce qu'il faut pour le thé et 2 fauteuils. Il y a une lampe de chevet qui éclaire le coin. Elle le fait asseoir et lui demande « Comment le prenez-vous ?» Il lui dit « J'ai pas l'habitude d'en prendre, je le prendrai comme vous. » Elle lui dit « Je le prends pur. » Et elle fait le service. Merci, madame. Une fois que c'est fait, le thé est pris une tasse pour elle, elle s'assoit en face de lui. Elle boit, lui en fait autant. Puis, elle pose sa tasse sur la soucoupe. Lui aussi. Il n'aime pas. Cela brûle la langue et le goût n'est pas fameux. Après avoir bu une deuxième gorgée, il lui dit : Il faut que je vous dise, madame. Je ne suis pas de Sainte-Croix. J'ai vu un homme qui s'appelle de Sainte-Croix. Et puis, il m'est arrivé un accident et l'on me dit que c'est moi de Sainte-Croix. C'est pour dire que je ne le suis pas, on ne me croit pas. Elle lui dit, vous êtes impossible. Et qui vous dit que vous étiez lui? Il lui répond, tous. Elle rit. Il lui demande, vous êtes de la famille de Sainte-Croix? Elle lui répond, oui, mais je n'ai plus le nom parce que je me suis mariée. Il demande, qui était de Sainte-Croix? Elle se lève et lui dit, venez voir. Elle prend la lampe de chevet qui est sur la table et le mène dans un coin du salon. Là se trouve un chevalet. Au-dessus, il y a un tableau qui représente un jeune enfant d'à peu près 8 ou 9 ans, habillé en mousse, genre 19e siècle. L'enfant a un visage noble, sérieux et mélancolique. Il a les cheveux châtains, clairs, avec dessus un chapeau de marin. Son visage est légèrement de biais, où l'on voit ses yeux qui regardent de côté. Il y a dans le reflet de ses yeux une lumière étrange. Il a un charmant petit nez, les lèvres bien faites, de jolies oreilles. Son visage est plutôt ovale et d'une très grande beauté. En plus de son costume marin, on voit sur le costume un foulard porté négligemment et qui semble être en soie grise. Sous le costume se trouve un maillot de corps en laine rouge et blanc. Le tableau, le portrait, est sur un fond genre vert bouteille uni. Elle lui dit, ceci est Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix, la maison de France. Et c'est vraiment lui et personne d'autre. Je suis de la famille, je n'ai pas entendu un autre de Sainte-Croix que Jean-Charles Emmanuel. Il lui dit, pourquoi moi j'ai rencontré une personne qui ressemblait à l'enfant du tableau et qui s'appelait Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France? Elle lui dit, vous avez rencontré un enfant? Il lui dit, j'ai bien rencontré une personne qui s'appelle Jean-Charles de Sainte-Croix et qui ressemblait à l'enfant de ce tableau. Et moi, l'on m'appelle de Sainte-Croix et l'on dit que je suis lui. Elle lui dit, on ne parle pas de ça. Il lui dit, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Elle lui dit, il vaut mieux rêver ou à un rêve ou un cauchemar, parce que la réalité est pire qu'un cauchemar. Elle est terrible. Moi, je ne veux pas la voir. Il ne sait plus où il en est. Après un moment où elle l'a bien regardé, elle lui dit « Comme il est comme vous, vous lui ressemblez étrangement. Mais qui êtes-vous ? » Il lui répond « Je m'appelle Xavier Darmon, j'ai 22 ans, j'habite à Lyon, dans le premier arrondissement, et je vis très pauvrement. » Il reste un moment sans se parler, il regarde le tableau, puis il lui demande « Qui est la personne qui se fait passer pour de Sainte-Croix et que j'ai rencontrée à Lyon ?» Elle lui demande « Qui ?» Il lui dit « Celui que je remplace et qui se fait appeler de Sainte-Croix. » Elle lui dit « Ça, c'est autre chose !» Il lui demande « Qui est-il ?» Elle lui dit « Ah, ça, tu le sauras peut-être un jour, mais là !» Elle lui montre le tableau et lui dit encore une fois « C'est Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. Il n'y a que lui qui avait ce nom. » Il lui dit « Mais peut-être qu'un de ses descendants porte le même nom que lui. » Elle lui répond « Je l'aurais su. » Puis elle lui dit « Mais il est vrai que vous lui ressemblez étrangement. » Il lui dit « La personne que j'ai rencontrée aussi. » Tout ça le trouble beaucoup, surtout le tableau. La vieille dame lui dit « Je vous invite à dîner. » « Merci madame, suivez-moi. » Il la suit. Elle le fait sortir du salon. Elle le met dans une grande pièce. Elle est tout aussi sombre que le salon, c'est la salle à manger, une immense pièce avec des meubles, de gros meubles. Le couvert est déjà mis sur la table, dans un coin de table, l'un en face de l'autre. En plus du couvert, se trouve un bougeoir avec quatre bougies allumées, en plus des couverts, bien entendu. Elle le fait asseoir. Et elle s'assoit où à côté d'elle se trouve une table roulante avec le plateau du repas. Elle lui dit « Comme mes domestiques sont absents, c'est moi qui présenterai les plats. » Et elle lui sert, comme début, un velouté au fraisson. J'espère que cela vous convient. » Il lui dit, vous savez, à Lyon, je ne mange que ce que je peux trouver. Je n'ai pas d'argent. Elle lui dit, je comprends. Tout en mangeant, il lui demande, pouvez-vous me dire qui était de Sainte-Croix, l'enfant du tableau? Elle lui répond, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai appris qu'il était devenu, une fois adulte, une personnalité très importante dans le monde de la noblesse et des affaires. Malheureusement, je ne sais pas grand-chose de lui. Dans la famille, on ne parle pas beaucoup de ses ancêtres. Et puis, il a disparu sans que l'on sache comment. Il lui demande, « Pourquoi cherche-t-on à faire revivre de Sainte-Croix ? » Elle lui répond, c'est sûrement pour quelque chose de terrible. Il lui demande, « Et moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Elle lui dit, « Il faut que vous fassiez très attention à vous. » Il lui dit, « J'ai l'impression de vivre un cauchemar. » Elle lui dit, « Vous me l'avez déjà dit, et ce n'est pas fini. » Malheureusement. Après le repas, il va encore une fois regarder le tableau qui est très beau. Le feu de cheminée s'est arrêté et il dit, j'ai eu toutes les peines du monde à avoir ce tableau, car il avait été vendu au musée du Louvre et la famille disait que c'était un faux. Mais moi, je savais qu'il était vrai et que c'était bien mon ancêtre. Je l'ai acheté une fortune et le garde précieusement. Je savais que c'était le vrai portrait de mon ancêtre, car j'avais fait une enquête sur lui. Et avant ce tableau, j'ai eu un dessin de lui, en enfant, ce qui m'a permis de comparer le portrait avec le dessin de mon ancêtre. Ils vont s'asseoir un moment où ils étaient au salon et lui demande de lui raconter sa vie à Lyon. Il lui parle de ce qu'il fait, de ses ennuis d'argent, recherche de travail et de ses nuits où il fait tellement chaud qu'il est obligé de sortir et de marcher dans les rues désertes et de temps en temps de rencontrer cette fameuse personne qui se dit de Sainte-Croix. Elle lui dit, « Bon, comme il se fait tard, je vous invite à dormir chez moi et vous partirez demain matin après avoir pris votre petit déjeuner. » Il lui dit, « Je vous remercie, madame, mais je ne sais pas si je peux accepter. Vous comprenez, j'ai mon oncle qui me surveille. Et s'il apprend que j'ai passé la nuit dehors, il risque de me faire une scène. » Elle lui dit, « Je fais moi aussi partie de votre famille, puisque vous êtes soi-disant de Sainte-Croix, et que cette personne qui se dit votre oncle n'a pas à vous faire des reproches parce que vous êtes allé rendre visite à un membre de votre famille, comme il dit. Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Ils se lèvent tous deux pour sortir du salon. Et le même. Le fenêtre, un étage plus haut, où se trouvent les chambres. Le couloir est aussi sombre. Elle ouvre une porte et le fait entrer. Éclair. C'est une pièce qui est grande et sombre, meublée en chambre avec de gros meubles. Elle lui dit, j'espère que cela vous convient. J'ai fait changer les draps. Derrière le paravent, il y a le cabinet de toilette avec tout ce qu'il faut pour se laver. Il lui dit, je vous remercie, madame. Et elle le quitte. Il décide de se coucher, se déshabille, «
et se couche.
Dans la nuit, il fait des rêves terribles. Il se voit en deux saintes croix en double. On cherche à le pousser dans un liquide pour le faire fondre. Il court dans les rues désertes et a très peur. Trou noir. Il se réveille dans sa chambre à Lyon. Il est en sueur et se dit qu'il a dû rêver à tout ça. Il se lève, il fait encore nuit, il a chaud, décide de s'habiller et de se préparer un café. Une fois qu'il a pris son café, il se sent mieux et se dit qu'il a dû rêver à tout ça. Il se souvient qu'il se trouve sans travail et sans argent. Il se demande ce qu'il va devenir. Il ne sait pas quel jour l'on est, ni l'heure qu'il est. Il regarde sa montre, elle est arrêtée. Elle était sur la table de nuit. Le jour s'est levé, il décide de sortir pour voir quelle heure il est et quel jour il est. Il faut aussi qu'il cherche du travail. Il sort de sa pièce. Et de l'immeuble. Il est sorti de l'immeuble. Il va rue Bouteille où se trouve l'épicier Bonlet pour acheter des fruits et demander l'heure. Il achète 3 oranges et il demande l'heure. L'épicier lui dit « Vous êtes déjà venu il y a une demi-heure pour demander l'heure et acheter aussi 3 oranges. » Il ne comprend pas et se dit qu'il perd la tête. L'épicier lui dit « Il est 15 heures. » Il ne comprend pas. « 15 heures ? » Il vient de se lever et le jour s'est levé en même temps qu'il s'est levé. C'est impossible. Il met sa montre à l'heure. Il déambule dans les rues de son quartier avec son sac en papier. Il y a ses oranges et essaye de remettre ses esprits en place. Autour de lui, tout semble normal. Au bout d'un moment, il s'en retourne chez lui. Et s'allonge sur son lit et ferme les yeux. Il se réveille, il fait encore jour. Regarde sa montre, il voit qu'il est 15 heures. Il pense que sa montre s'est arrêtée. Il a faim et il veut connaître l'heure. L'épicier lui dit qu'il est 15 heures et lui donne 3 oranges. Il ne comprend pas et se dit qu'il est devenu complètement fou. Depuis qu'il fait des rêves sur ce de Sainte-Croix, il ne sait plus où il en est. Il entre chez lui, mange ses oranges et se couche. Il a très mal à la tête, il se sent horriblement fatigué. Il s'endort, tout noir. Mais il sent qu'il tourne sur lui-même. Il semble tomber dans ce trou noir. Il se réveille, il fait nuit. Il décide de sortir car il fait très chaud. Dans les rues désertes de son quartier. Il ne sait pas vraiment où il va. Les rues désertes de son quartier qui sont lugubres. Il a la tête vide, fatigué à cause du manque de nourriture et puis ces questions qui se posent. Tout d'un coup, on lui tape sur l'épaule par derrière. Il se retourne et voit effrayé de Sainte-Croix qui lui sourit et lui demande « Qu'est-ce que tu es devenu depuis tout ce temps? Je te cherchais, moi ?» Xavier ne sait quoi répondre. Il se demande s'il n'est pas retourné dans son cauchemar. L'autre sourit et lui dit « Tu es toujours dans la lune !» Il le prend à l'épaule et... va le mener dans un café. C'est un café de la rue qui fait l'angle, un petit café lugubre. Il n'y a pas de consommateur. Xavier ne sait plus, il se laisse guider. De Sainte-Croix le fait asseoir à une table et se met en face de lui. De Sainte-Croix commande deux Vichy. Après avoir bu, De Sainte-Croix lui demande « Qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps ?» Xavier lui demande « Combien de temps tu m'as pas vu ?» De Sainte-Croix lui répond « Cela fait au moins une semaine. » Xavier ne comprend pas tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'il a cru avoir vécu, d'après De Sainte-Croix, n'aurait duré qu'une semaine. C'est impossible. Cela peut-être des mois. Xavier lui dit « Je ne comprends plus. Tout ce qui m'arrive, je n'ai plus la notion du temps. » De Sainte-Croix lui dit, « C'est tout à fait normal, étant donné que tu n'as pas d'emploi du temps régulier, puisque tu ne travailles pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait durant cette semaine ?» Xavier, pour connaître la vérité et savoir Il lui raconte tout ce qui lui est arrivé ou tout ce qu'il croit qui lui est arrivé. Le Saint-Croix sourit et lui dit « Tu as beaucoup d'imagination. C'est impossible que tu aies pu prendre ma place étant donné que je me souviens très bien de ce que j'ai fait durant cette semaine. À moins que tu aies rêvé de devenir moi. » Xavier lui dit « Tout ce que j'ai vécu semblait être bien réel. J'aimerais te demander, est-ce que tu n'as pas de la famille, un oncle et une tante du côté de ta mère et une arrière-grand-tante du côté de ton père ?» Le Saint-Croix lui dit « Oui, j'ai de la famille, mais cela fait très longtemps que je ne les vois pas. Et pour ce qui est du tableau, je n'en ai jamais entendu parler. Et puis pourquoi ma famille voudrait-elle me remplacer par toi ?» Xavier lui dit, ta grand-tante m'a dit que tu ne peux pas être de Sainte-Croix, car il n'y a eu qu'un seul de chant, Charles-Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. De Sainte-Croix lui dit, t'es tout à fait ridicule. Je sais très bien qui je suis. Il sort son portefeuille de sa veste et lui montre sa carte d'identité. Xavier ne dit rien. Le Saint-Croix sourit. Après avoir fini leur verre, ils sont sortis du café et décident de marcher un peu. Le Saint-Croix lui dit, je ne comprends rien à ce que tu me dis. Je me demande si tu n'es pas un peu jaloux de moi. Xavier lui dit, non, je ne suis pas jaloux de toi. J'ai beaucoup d'amitié pour toi d'ailleurs. Le Saint-Croix lui demande, comment se fait-il que tu es dans ton ancien logement et quartier, alors que tu devrais être, en ce moment, chez ma famille à moi? Xavier lui répond, je ne sais pas. Je m'étais couché dans la chambre de l'arrière-grand-tante, je me suis endormi et je me suis réveillé dans mon lit, en ne sachant pas ce qui m'arrivait. J'ai cru que j'avais fait un cauchemar, et puis tu es apparu et je ne sais plus. Il y a une chose aussi qui me paraît étrange, c'est que j'ai l'impression que le temps passe d'une drôle de façon pour moi. Je ne sais plus si en ce moment je vis un cauchemar ou si je vis le cauchemar lorsque je suis, disons, à ta place. Le Saint-Croix lui dit, tu devrais aller voir un médecin, certainement que tu as besoin de te faire soigner. Tu as peut-être un problème, disons, de double personnalité, et que peut-être tu souhaites prendre ma place et devenir de Sainte-Croix. Puis, de Sainte-Croix marche devant lui et disparaît dans la nuit. Xavier essaye de le retrouver. Il court dans les rues. Mais ne le trouve pas. Il ne sait plus s'il est en train de rêver ou quoi. Il se sent faible. Et malgré lui, il ferme les yeux. Il se réveille, allongé sur son lit dans sa chambre. Il fait grand jour et regarde sa montre. Il est 15 heures. Il se demande s'il n'a pas rêvé ou s'il a réellement vu de sainte croix. Il ne sait plus, il a mal à la tête et envie de vomir. Il se lève. Va au lavabo pour se rafraîchir le visage. Manger un morceau de sucre. S'habiller. Et sortir de sa chambre pour marcher un peu dans son quartier et réfléchir. Il veut remettre ses idées en place. Il a faim, il a très faim. Comme d'habitude, il va sur les quais pour demander si on ne peut pas lui donner un petit travail en échange de quelques fruits et légumes. Les commerçants le regardent d'une drôle de façon. Et un commerçant, un marchand de fruits et légumes, gros, tête ronde, jovial, tablier bleu, lui dit « Tu es déjà venu, tu as déjà demandé ça il y a une demi-heure. Non, il n'y a pas de travail pour vous. Et puis, lorsque vous, on vous donne du travail, vous en allez sans avoir rien fait. » Il ne comprend pas et demande. Ça fait longtemps que je vous ai demandé du travail. Le commerçant lui dit. Vous en demandez toutes les demi-heures. Xavier regarde sa montre et voit qu'elle est restée à 15 heures. Il entre chez lui. Il entre chez lui en se disant qu'il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Une fois chez lui, ne sachant que faire, ayant faim, il décide de s'allonger sur son lit et s'endort. Il se réveille parce que quelque chose le force à sortir. Il fait nuit et les rues du quartier sont vides de passants. Il a la tête vide, se met à marcher comme ça, au hasard, sans savoir pourquoi. Sur les quais, il rencontre un vieux clochard, cheveux en broussailles, visage ridé, vêtements en guenilles. Le vieux lui dit « Je sais ce que tu cherches, mais dis-toi bien que de Sainte-Croix, ce n'est rien du tout. Il n'existe pas. C'est du vent. Qu'est-ce que tu sais de lui ? Rien. Tu vois bien que ce n'est que du vent. Il n'existe pas. C'est dans ta tête tout ça. Il n'y a qu'une seule chose. Oui. Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est le tableau. Le tableau connaît la vérité, ou plutôt, il a la vérité peinte dessus. Mais où se trouve-t-il ? À l'intérieur de toi. Peut-être pour connaître la vérité, il faut que tu retournes là-bas. À moins qu'il n'y a rien à trouver, puisque de Sainte-Croix, ce n'est rien, s'il n'existe pas. Une personne qui se porte ce nom-là, il doit y avoir des papiers qui racontent son histoire. Mais non, rien. Tu l'as vu la nuit, alors. Et tu n'as vu que par hasard. Xavier lui demande, « Qui êtes-vous ? Et comment vous savez au sujet de deux Sainte-Croix et moi ?» Le vieux lui dit, « Je suis comme l'arrière-grand-tante chez qui tu dois dormir en ce moment, c'est-à-dire que je suis le destin. » Xavier prend peur. Il ne veut pas retourner chez l'arrière-grand-tante, car il revivra son cauchemar. On va le forcer à être de Sainte-Croix. Xavier dit au clochard, je ne veux pas retourner là-bas, parce que là-bas, ce n'est pas ma vie. Le clochard lui dit, le temps fait toujours un retour en arrière et un tour en avant. Xavier ne sait plus, ne comprend pas ce qu'il lui a dit. Il s'en retourne tout retourné. Arrivé chez lui, il se couche. Mais une fois au lit, il a peur de s'endormir. Malgré lui, il s'endort. Il fait un rêve. Il est poussé par un grand vent, un très grand vent. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Jugnet de Sainte-Croix, production mise en scène Jean-Pierre Jugnet.